Chers auditeurs des Lutins de l'Enfer, si vous écoutez Spotify sans l'abonnement premium, vous aurez seulement un extrait de 30 secondes pour les chansons discutées. Mais n'ayez crainte, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Je suis Batman, mais je dois combattre le crime. Je laisse la parole à Robin.
Hey, cette semaine, aux Lutins de l'Enfer, nous irons avoir un triplet de trash de la baie Aria de San Francisco et nous aurons également un résumé du film Feu à volonté. Tout ça et bien plus aux Lutins de l'Enfer. Correct, Batman?
Excellent.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey, salutations à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O, en compagnie des éternels espiègles Lutin K et Lutin D. Comment allez-vous?
Très bien.
Pas très bien. À chaque fois que j'entends l'intro, je me dis que cette bass drum-là dans le dos, quand t'as mal au dos, ça ferait du bien.
Incroyable.
Moi, je ça allait bien. J'ai eu mon autographe de Batman, vu qu'on l'a eu tantôt. Là.
Oh!
Ah, il avait l'air pressé, par contre, t'as eu le temps d'y demander?
Ben, il m'a lancé un bat autographe avec son batarang, là, puis c'était pas super personnalisé, mais bon, c'est l'intention qui compte.
Ton autographe, c'est pas un genre de tatou dans le cou pour montrer que tu t'es déjà fait arrêter par Batman?
Non, je suis pas un méchant.
Ben, je suis un lutin d'enfer.
Non.
Ouais, fait qu'on a un spécial DC cette semaine. On va parler un peu de DC à travers l'émission.
Oui, puis il y en a des fois qui ont tendance à mélanger DC puis Marvel. J'espère que ça sera pas votre cas, les amis.
Je vais faire très attention.
Quand ça vient Saint-Charles, absolument, c'est Marvel.
OK.
Peux-tu nous éclairer c'est quoi les grosses différences pour les incultes?
90% des héros ont été créés par DC avant et ont été copiés par Marvel par après. faire des farces, là. J'aime plus l'univers de DC que Marvel. Là. Des grosses différences, on pourrait juste dire que c'est peut-être des plus adultes DC dans le sujet, même s'il y a quand même des sujets adultes avec Marvel. Mais les héros de Marvel, c'est plus des vrais héros gentils à la base, avec des bonnes valeurs. Puis la majorité des méchants, c'est plus des méchants qui se lèvent le matin avec une tasse de café et allons détruire le monde. Tandis que les personnages sont un peu plus peaufinés du côté de DC. Puis il y a toute l'ambiguïté, tu sais, un des bons exemples, ça reste Batman. Oui, c'est un héros, mais quand tu le regardes vite de même, un personnage sociopathe, antisociable, tu sais, qui vit dans le noir, c'est pas ce qu'on appelle un héros dans la vie de tous les jours. Là.
Non, ça, on appelle ça un métalleux.
Ouais, Batman, c'est un métalleux.
Ben, c'est sûr. Il y a pas justement les Batman de métal, là.
Oui, il y a même les Batman Death Metal qui sortent en bande dessinée avec des pochettes dédiées à différents groupes, dont Lacuna Coil, Ghost, il me semble Megadeth. Mais c'est ça. Donc, il faut pas juste se fier au film, hein, on s'entend là, que si on se fie juste au film, oui, Marvel est peut-être beaucoup plus intéressant que DC de ce point de vue-là.
Il y a différents, il y a certainement une différence de budget qui a été accordée aux deux. Le studio Marvel acheté par Disney, disons que ouais, ils vont par là.
Ouais, ça l'a aidé beaucoup. De fond, en plus, Marvel ont sauvé Disney de la faillite parce que Disney ont failli faire faillite quelques fois dans leur histoire. Et Marvel a été leur dernier gros coup pour pas faire faillite. Là. Et depuis ce temps-là, ça va très bien Disney. Trop bien même.
À quand Mickey dans les X-Men?
Ben, tu sais, ça fait pas longtemps que les X-Men ont été rapatriés par Disney, là. Je te dis ça même, ils appartenaient encore à la Fox.
Oh oui, mais moi j'ai hâte d'avoir Mickey, un Jedi Mickey ou...
Jedi ou Mickey
avec, tu sais, Mickey avec les Claude Wolverine, come on.
Ça va péter Dark Vader. Tu sais, les crossovers, hein.
Ben ouais, c'est, ça,
c'est le début.
La meilleure représentation de Mickey Mouse, je pense, c'est dans South Park.
Oui,
je sais pas si vous avez pogné ça. Aïe, aïe, Mickey.
Donc, on commence en musique.
Ben, vas-y, mon lutin cas, c'est à toi.
Ben ouais. J'ai décidé, comme tu disais, hein, ça fait notre 5e émission, on n'avait pas encore eu de dette suédois vraiment. Puis pourtant, c'est un courage que je pense que tous les trois, on apprécie vraiment énormément. Ouais. C'est-à-dire que je suis allé puiser dans les. Ouais, je suis allé puiser dans les vieux trucs. On va entendre Twin Flames avec la pièce Just a Race de l'album éponyme, qui était leur deuxième album de 1996. C'était le premier album avec Anders Dirty Freden qui chantait à l'époque. Ben, il chante encore, là, mais bon, longue histoire. Fait que, quand même, un de leurs meilleurs albums, là, Just a Race puis Oracle, qui a suivi, sont mes deux albums préférés d'In Flames. Ils ont fait plein d'autres bons albums, plein d'autres bonnes chansons, mais ces deux albums-là, ensemble, ça aurait dû être un très bon album double. Mais bon, c'est deux albums séparés. Puis, juste avant, on va entendre un groupe avec un ancien membre d'In Flames, le groupe Sacrilège, le drummer, ben, l'ancien drummer d'In Flames, Daniel Svensson, qui était là de 99, je crois, jusqu'à récemment, là, 2016-2017. Il était le chanteur et le drummer du groupe Sacrilège qui ont fait deux albums. On va entendre une pièce de leur deuxième album, The Fifth Season. C'est paru en 97. Puis quand que Dirty Anders est allé le recruter pour venir dans In Flames, le groupe est mort. Anders a tué beaucoup de groupes. Mais bon, ça fait qu'on va entendre la pièce Feed the Cold de Sacrilège. Au lutin de l'enfer! Et nous venons d'entendre la pièce Midway Through Infinity du groupe Dark Tranquility, tiré de leur deuxième album The Gallery, paru en 95. Donc on a eu Sacrilège 97, In Flames 96, Dark Tranquility 95, hein, ça a été du gros hasard, je m'en suis rendu compte par après.
Je me suis tapé récemment la discographie Dark Tranquility, récemment, je veux dire la semaine passée, puis c'est quand même super, c'est une belle discographie, c'est intéressant à écouter.
Moi je la coupe en deux, moi il y a après, ouais, dans le fond Projector puis avant Projector, moi j'aime mieux la deuxième partie. La première partie a des bonnes tunes, mais tu sais, je trouve il y a des affaires qui accrochent. Le vieux Dark, je suis moins fan.
Il y a même un entre-deux, tu sais, ils ont commencé vraiment comme Skydancer, The Gallery, ils ont vraiment commencé gros Melodeath. Puis après ça, dans Mind's Eye, Projector, ils ont commencé à avoir plus de... Très la ceinture bien, de caresse est embarquée un peu plus à high.
Ouais. c'est clair.
Puis c'est quoi, c'est Damage Done que j'ai... La première pièce, j'ai écouté Damage Done, j'avais « Wow, tu sais, Final Resistance, je pense, toute une pièce. Oh, » Puis ouais, là, ils ont embarqué plus dans la mouvance Fiction.
Ouais, moi, Damage Done, c'est peut-être mon deuxième album préféré après Fictions, justement. Mais ouais. Michael Stan, qui est le chanteur de Dark Tranquility, là, pour ceux qui ne le savent pas, ça, il a été également un chanteur avec In Flames pour le tout premier album d'In Flames. Puis finalement, quand que Dirty Anders, il s'est poussé de Dark Tranquility parce qu'Anders était le premier chanteur de Dark, mais Michael a décidé de prendre la place et exhiber son chess.
Anders, as-tu chanté sur Dark?
Non, Anders s'est poussé de Dark avant même que le band pogne.
Avant qu'il enregistre.
Fait qu'il n'existe pas d'enregistrement de ça.
Non. Ben, sûrement des genres de tape cassette, un peu comme Elvis qui chante avec les Beatles, là, mais sans plus.
Si vous avez ça dans une vente de garage, sautez dessus.
Oui, mais si vous êtes en vente de garage parce que vous prenez à Gothenburg, fort probablement. Là. On salue tous les gens de Gothenburg, comme dirait Pierre au hockey. Ben oui.
Envoyez-moi un peu de lavande par la poste, s'il vous plaît.
Ouais, la lavande de Gothenburg, elle est particulière, en effet, sacré Pierre. Pour ceux qui ne savent pas, Pierre Roule, l'animateur du hockey RDS, est le Shylock de la lavande établi à Saint-Charles. Donc...
Je comprends littéralement rien de ce que tu viens de dire.
C'est pas grave. Donc, ouais, on va revenir à DC. Il y a seulement des personnages que vous aimez pas ou qui vous laissent indifférents.
Moi, je suis vraiment chanceux dans la vie. J'ai pas la mémoire des noms.
Il ressemble à quoi?
Hein? Fait, non, mais c'est ça. Fait que si tu me laisses indifférent, là, et que je me souviens pas de ton nom, puis encore moins de toi. Fait que... Mais, tu sais, le lien que j'ai avec DC, tu sais, c'est... Moi, j'ai vraiment pas vu les films, à part les films de Batman. Fait que c'est surtout les BD ou les jeux vidéo, là, mais...
Quelques petits films d'animation que je t'ai fait écouter quand même de DC.
Oui, mais regarde, si j'en ai un à choisir, là, je vais y aller avec Dick.
Ouais.
C'est Nightshade, c'est ça?
Nightwing.
Nightwing.
Ou le premier Robin, ouais. Richard Grayson.
Ouais. Je l'aime pas.
Mais pourquoi t'aimes pas?
Ouais, c'est son attitude. Ou je sais pas, il me gosse. Il se passe meilleur que Batman.
Ouais, il est quand même fort, mais oui, il est cocky quand même, Nightwing. Et toi, Olivier, personnage de DC que t'aimes pas?
Moi, c'est le personnage que je trouve le plus un peu dole, c'est Aquaman. Je comprends pas son super pouvoir de OK, mais Family Guy avait fait un blague qui m'avait vraiment fait rire. Là. Tu vois quelqu'un qui se fait attaquer sur la plage. Aide-moi, Aquaman, aide-moi! Là, t'as Aquaman qui est. Ouais, je peux pas faire grand chose, mais viens pas dans l'eau, toi, sinon ça va brasser.
Non, je suis pas un grand fan d'Aquaman, moi non plus. Puis, tu sais, même c'est le roi des Atlantes, tu sais, il est même pas le plus fort. En fond, la reine Mera est beaucoup plus forte. On l'a vu dans des animés, entre autres, que. Tu sais, Darkseid, il prend du monde de son bord, puis il tue Aquaman, mais il garde Mera de son bord. Ou dans les DC Deceased, Aquaman, il creve, mais Mera, il reste en vie. Donc, pour moi, même les créateurs d'Aquaman, ils n'aiment pas trop leur personnage.
Ça arrive.
Mais son genre de juste au corps en écaille dorée et tout, c'est rien pour se faire aimer, là.
C'est questionnable. Ce qui peut. Quoique dans le film, on en reparlera sûrement du film Justice League, mais il est quand même pas si pire, là.
Je pense parce que c'est Jason Momoa qui fait que ouais. Le personnage est pas si pire, puis il est en badaine et non en juste au corps, en paillettes, là. dans son mais fitness le... Zumba, là.
Mais le film avec le même. Tu sais, le film Aquaman, j'ai pas été capable de le finir non plus.
Ouais, il y a des bouts intéressants, mais sans plus. Moi, ce qui m'a vraiment fait capoter dans Aquaman, c'est à quel point que le CGI il est trop présent. Ouais. Ils sont dans une chaloupe. Je veux dire, la chaloupe est en CGI. Chris, hostie, où est là la chaloupe, là? regardez à quel point t'es mal pris dans la vie pour CGI-er une chaloupe.
Peut-être trop de budget.
Quand tu tournes à LA. C'est tough avoir une chaloupe avec tout le trafic. Tu sais, t'as 2 semaines de shipping. C'est juste trop compliqué.
Et toi, Lutinka, quel personnage de DC?
Ben, moi, tout, personnellement, c'est Aquaman là, qui m'intéresse pas vraiment. Il y a Green Lantern et tout que je suis pas fan. Je connais pas tant les Green Lanterns parce qu'ils sont beaucoup. Hein, tu sais, ouais. Le Green Lantern Corps. Il se peut avoir une série sur HBO Max qui s'en vient avec Green Lantern d'ailleurs. Mais je sais que ça. Tu sais, les personnages changent en plus. Là, c'est pas tout le temps le même qui a l'anneau. Ils sont pas tout le temps sur la Terre non plus. Ils sont appelés ailleurs. Non, c'est pas des personnages que je suis vraiment attaché. C'est ça. On continue ça en musique? Ben, oui.
Ouais, allons-y en musique, ça, j'allais proposer. C'est à mon tour. Fait que c'est ça, récemment, en plus d'écouter un film qu'on va parler plus tard, j'ai écouté un documentaire sur le début du thrash metal dans les années 80.
Le trash mexicain.
Le trash mexicain, parce que si vous trouvez la version sur YouTube, il y a des sous-titres un peu questionnables, mais le documentaire s'appelle Thrashed, moi je l'ai écouté sur Amazon Prime. Bon, on s'entend que c'est une histoire qui est quand même bien connue, là, celle du début du trash des années 80, ça a été documenté à quelques reprises. Celui-là était quand même bien fait, là, avec plusieurs entrevues des personnes. Donc, ben c'est ça. Ça m'a inspiré ce petit bloc du trash des années 80. J'avais pas mis de vrai Metallica non plus à l'épisode. Fait que voilà, je me suis gâté. Parce que dans le documentaire, ils disent que, bien sûr, mais Metallica est un des premiers bands qui a bien fait. T'sais, je dirais pas que c'est le premier band de trash, mais c'est un des premiers qui l'ont fait très bien.
Ben, pis... C'est sûr qu'ils sont devenus le plus big.
Ouais, c'est ça. Puis le. Étant donné que c'était surtout un phénomène live au début, ben le charisme de Hetfield a sûrement aidé à ce que ça pogne, plus que leur enregistrement initial, parce que ça a été long quand même avant qu'ils produisent un album. Mais voilà, ben je suis allé avec une pièce du quatrième album, And Justice for All, qui est un de mes préférés, malgré la production malheureusement douteuse. C'est ça, c'est l'album qu'ils ont fait tout de suite après la mort de Cliff Burton. Puis, ben c'est ça, Jason Newsted l'a remplacé, mais évidemment pas été tout de suite chaudement accueilli dans le groupe. Apparemment que...
L'as-tu déjà été, tu sais?
Ouais, c'est ça. Il est ultimement parti. Mais pour cet album-là, apparemment que Hetfield aurait dit « Ouais, baisse le son de la bass jusqu'à temps que tu l'entendes à peine, puis après ça, couplé de moitié. » Ce qui fait que... Pour un enthousiaste de la bass comme moi qui essayait d'apprendre One avec la tab, j'ai fini évidemment par abandonner parce qu'on n'entend rien de la bass. Mais bon, j'ai mis la toune Dyer's Eve qui est une de mes préférées d'eux. Puis ensuite, on va enchaîner avec ben, le band. Parce qu'au début de Metallica, évidemment, il n'y avait pas Kirk Hammett, il y avait un certain Dave Mustaine qui... de façon très célèbre, s'est fait réveiller un matin en se faisant dire « Dave, you're out of the band » à New York.
Là, ton ticket de bus.
Et voilà. Merci, bye. Alors, évidemment, Mustaine l'a pas trop bien pris. Il est parti Megadeth. Et voilà, ben, c'est avec un de leurs albums au début qui était super bon, « Peace Sells, but who's buying ?» Avec la pièce « Peace Sells ». J'ai demandé à mon ami Thunders de quoi sa tune préférée du Early Megadeth, puis c'est elle qui m'a sorti. Fait que, demande spéciale. On écoute d'abord Metallica, ensuite Megadeth au lutin de l'enfer. Et on vient d'entendre un troisième membre du Big Four Slayer avec une demande spéciale de notre ami Big qui a demandé la pièce nécrophiliaque de l'album Hell Awaits de 1985. Donc Slayer qui sont pas vraiment, que j'ai appris pendant le documentaire, sont pas de San Francisco, ils étaient plus à LA dans le coin de Orange County, fait que à LA, t'avais à Hollywood, t'avais le hair metal. Puis à Orange County, t'avais. Exact. Puis à Orange County, en légère opposition, t'avais Slayer. Alors, ben voilà. C'est un bon documentaire et évidemment des bonnes pièces. On se tente jamais d'écouter ça. Quoique Slayer en show, on se tente un peu, mais.
Ben, c'est le premier show metal que j'ai vu dans ma vie, Slayer. J'étais allé avec Big, justement, qui a fait le moment spécial, à l'Agora, à Québec. Il y avait In Flames qui jouait bel amphithéâtre extérieur là. Mais ouais, il y avait In Flames en première partie et Soulfly également, que j'ai jamais été un grand fan de Soulfly, puis j'en ai profité pour aller aux toilettes pendant Soulfly. Donc
oui, t'avais envie.
Ouais, ça a été long. J'ai tiré ça. Là, j'ai pas dit je me la suis tirée, là. J'ai dit j'ai tiré ça pour le temps, je suis allé aux toilettes. Mais ouais, non, Slayer, ça. Puis sinon, on les avait entendus ou vus à moitié également quand on était en Finlande avec le Lutin 2.
Oui.
On n'a pas resté au show complet, hein, je crois. Je ne m'en rappelle plus.
On est parti avant le rappel, je crois.
OK. Puis sinon, je les avais vus à leur première de leurs nombreuses tournées d'adieu à la place Belle.
Ouais, là. D'ailleurs, c'est drôle parce que pas longtemps après ça, ils sont venus au Heavy Montréal.
Ben ouais, tu sais, quelle surprise.
Mais là, je pense que c'est vrai.
C'est comme les Rolling Stones. Si Keith Richards est encore capable, fais-moi pas chier qu'Araya il est pas capable.
Ouais, mais Keith Richards joue pas du Slayer.
Non, mais il s'y est debout. C'est déjà un exploit en soi.
Araya, c'est juste qu'il est immobile, c'est ça qu'on parlait un peu avant l'émission. Il s'est fait souder comme les vertèbres du cou parce qu'il a trop être banni. Il est comme okay. Il est vrai, littéralement plus capable. Fait que.
Ouais.
C'est un peu dommage.
Pour revenir avec un petit peu DC, vous avez pensé du film HBO? Moi, je l'ai pas vu. Je sais que le nouveau Justice League, le remake qu'il y a eu de Zack Snyder. Parce qu'il y a eu sorti un ouais. Justice League de 2-3 ans qui était pas intéressant. Puis là, finalement, il en a sorti une grosse version. Puis toi, Olivier, t'es le seul qui l'a écouté dans nous trois, là. Parce que t'es le seul qui t'abonnait à ce poste-là.
Ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai écouté. Justice League était quand même bien fait. Le remake, il est quand même 4 heures de temps. Je savais pas quand je l'ai commencé, mais pour vrai, surprenamment, je l'ai fini sans m'endormir, ce qui est très, très, très rare ces temps-ci. Mais je trouve que le film fait plus de sens que la premier cut. On comprend un peu plus pourquoi. On comprend un peu plus ce qui se passe avec Superman, parce que dans la première version, on dirait que le but, c'est juste de ressusciter Superman, puis après ça, de le convaincre de nous aider, puis voilà, après ça, c'est fini. C'est ouais, un peu plus compliqué que ça. Dedans.
La seconde que Superman y revient, on sait que c'est fini. Là.
Ouais, c'est ça, mais on comprend un peu mieux dans la version longue pourquoi est-ce qu'il y a les enjeux. Fait que ça vaut la peine.
Moi, j'ai pas vu, j'ai hâte de le voir, là. Ça va donner éventuellement. Sinon, d'autres bons films. Ben, la trilogie de Christopher Nolan est bonne, ouais. Là, quand même. Même si le dernier avec Bane, là, le troisième, c'est Dark Knight.
Returns ou.
Rise, je sais plus c'est quoi le titre exactement. Ouais. Moi, j'ai le premier, le 2 puis le 3. Le 3. Ouais. Je l'ai pas aimé. J'ai trouvé que Bane était vraiment pas intéressant comme personnage. Puis il va dire de quoi de gros. Le Bane avec Monsieur Freeze, là, le Batman, là, qui avait eu Monsieur Freeze puis Poison Ivy dedans, ce Bane-là était beaucoup plus intéressant que le Bane de Christopher Nolan.
C'est peu dire. Ben, c'est une brute. Hein. Nolan essaie de la rendre un peu plus complexe, mais tu sais, quand il parle dans une canne de conserve puis qu'on comprend rien, ça l'aide pas. Là.
Mais ouais, c'est que. Mais pour les films de DC, on dit souvent que le film avec George Clooney est vraiment le pire. Je crois que oui, là, on s'entend qu'il est le pire. Mais il y a quand même des bons éléments dedans. Parce qu'autant qu'il est pas bon, George Clooney, dans le film, il en est attachant. Puis il rappelle attachant. Un peu. Ouais, mais il est comme maladroit. Puis il fait penser un peu à Adam West dans sa façon de jouer, entre limites, là, dans l'univers de Batman Q. Ouais. Le pire Batman, tant qu'à moi, c'était Val Kilmer, qui a été vraiment pas mémorable.
Ouais, je pense que j'aimais mieux Val Kilmer que George.
Ah ouais, non, Val Kilmer, il était sans saveur. C'est mais au moins ça, il y a... Oui?
Ou c'est peut-être que j'ai plus aimé le film en général parce qu'il y avait Jim Carrey et tout ça. Fait que peut-être que ça m'a amené à aimer un peu plus Val Kilmer. Mais...
Ben, le film était plus intéressant aussi, justement, avec le Riddler puis Two-Face qui jouaient dedans. Tu sais, les deux qui font une vraie alliance de méchants avec un vrai plan élaboré. Puis tu vois, Batman ne faisait pas d'enquête parce que ça a tout été par hasard qu'il a tombé ses affaires. Fait que Batman, tu sais, le Spyro le plus loqué au monde là, dans le film. Là, mais...
ça a toujours un peu de chance.
Tout le temps. Puis là, on va avoir de la chance d'entendre un bon bloc de musique.
Ouais, Lutin ouais. D, il voulait se rattraper de son bloc dépressif de la semaine passée.
Ben, exactement. J'ai décidé de virer ça de bord. Moi, ça me rend joyeux, la musique dépressive, mais ça a l'air que je suis tout seul. Fait que là, j'ai décidé d'y aller avec un vrai bloc de joie. T'sais, t'en veux-tu de l'accordéon puis du drum dans Rod? Ben, voilà, j'ai mis la pièce Musette Maximum de Igor avec 3 R. Groupe français que j'aime bien. Puis avant, ben j'ai mis une pièce de Trépalium, un groupe que j'aime bien aussi, ils sont français. Et puis, ils ont sorti un nouvel EP en 2020. Ils n'avaient rien sorti depuis 2014. Fait que, tu sais, quand tu as du temps, hein, ben les bandes ont le temps de se retrouver et sortir des EP pour le fun de même, vu qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Fait que j'ai choisi la pièce Sick Boogie Murder de leur album de 2006.
Trépalium, ils sont listés comme... du death, est-ce que toute leur discographie est comme ce que tu nous fais entendre ou c'est?
Ça varie pas mal. Ça varie de plusieurs influences. Là, fait que, à la base, oui, death, mais Il se permet des petites envolées ici et là, dans le boogie et dans le swing. Et...
Fait que, ben, on va écouter ça.
Du métal qui sent le swing, Diablo Swing Orchestra, Voodoo Mon Amour, tiré de l'album Pandora's Pignata en 2012. Ben, assez éclaté, moi j'aime bien, je préfère leur album de 2006 de Butcher's Ballroom, mais quand même, très bon band.
Je me rappelle que The Butcher's Ballroom t'en a fait jouer en masse à l'époque quand je jouais à la radio.
Oui, puis c'est ce que je disais à Olivier hors honte tantôt. J'ai pas mis de tune de cet album-là justement pour pas t'écœurer, parce que je t'ai écœuré en masse avec ça jadis.
Ben, je trouvais ça bien. Moi, c'est moins mon style, mais je trouvais ça intéressant à voir en show. Mais c'est des bands un peu comme exemple. Il y avait Unexpect à l'époque également, que je trouvais c'était beaucoup plus intéressant ça. Sur scène que juste sur CD.
Mm-hmm.
Band de Montréal, ça.
Est-ce que ça existe encore en Expect?
Non, ouais. Ça n'existe plus.
Ouais, j'espérais pas grand-chose.
Ouais, Diablo, très bonne pièce, Voodoo Mon Amour.
Bon. Si vous n'avez pas dansé, je sais pas comment vous avez fait. Vous étiez en voiture, sinon vous n'avez pas de raison.
Vous étiez un otage, peut-être. On salue tous les preneurs d'otages.
Bouge pas! Oui, mais c'est bon, je veux danser!
Dans une situation avec Negan, puis Lucille, peut-être que... Je sais pas. Lucille ou danser?
Ben, c'est Lucille qui danse.
C'est ça. Ouais. Pour le plus grand malheur des auditeurs.
Ben, pour des séries télé, parler de Walking Dead, on en parlait un peu il y a quelques émissions. DC, ils font beaucoup, beaucoup de séries télé, beaucoup plus que Marvel. Et c'est là que DC se rattrape. Autant que dans les films, c'est relativement souvent moyen. Dans les séries télé, c'est beaucoup plus intéressant quand on pense justement à Gotham, la série Arrow, Flash. Il y a eu Supergirl, ben, ça existe encore. Il y a les Legends of Tomorrow que j'écoute avec Annie. Puis là, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle Stargirl, qui traite surtout de la Justice Society of America, qui était le premier groupe de super-héros de l'histoire des bandes dessinées dans les années 40. Parce que, arrêtez, il y avait plusieurs comics. Superman, on dit, c'est un personnage de DC, mais il vient de Action Comics. Batman vient de DC. Puis Justice Society America était d'une autre branche de comics que je me rappelle plus du nom. Puis tout ça a été racheté par DC par après. Mais le personnage de Flash, entre autres, et Green Lantern était dans cet univers-là. Et on les aperçoit leur carcasse fumante dans Stargirl, entre autres. Fait que la série est intéressante. Puis une autre série que moi j'ai bien hâte de voir de DC. Je vois pas les streamers rien. Là. J'attends qu'ils sortent en DVD puis je les achète. Parce qu'ils sont pas disponibles au Canada. Via les chaînes payantes. C'est la série sur Pennyworth. Alfred, le majordome de Bruce. Il y a une série de sa jeunesse lorsqu'il faisait partie des services secrets britanniques. Puis ça m'intéresse beaucoup parce que le Alfred Pennyworth de la série Gotham est le meilleur Alfred qui m'a été donné de voir à date.
Il pète des gueules dans Gotham puis d'aplomb.
Ouais. Est-ce que t'avais écouté Gotham, toi, Olivier? Oui.
Non, je n'ai écouté peut-être pas tout à fait une saison, je pense.
C'est vraiment pas beaucoup.
Non,
c'est une bonne série.
Faudrait que je m'y mette.
Fait qu'on continue en musique?
Tu continues ton tour de la Suède?
Ouais, continue en Suède avec d'autres groupes, mais tous des groupes qui n'existent plus comme Sacrilège. Je me dis, tu sais, j'irai pas dans des bands faciles là, pour le death mélodique. Fait qu'on va entendre une pièce du groupe Sins of Omission qui ont sorti deux albums, dont le premier en 99. On va entendre cet album-là qui s'appelle The Creation avec la pièce de Experiment. Cet album-là est vraiment un excellent album. Et le deuxième est vraiment pourri du début à la fin. Ça veut jamais mieux dire qu'ils ont fait un seul album puis le band s'est splitté après. Puis oui, dis, je sais que t'es un grand fan également de cet album-là.
Oui, excellent. Monsieur Godasse avait ri de moi à l'époque parce que j'étais tout heureux de l'avoir trouvé à 4$ sur eBay, mais il me disait, à ce prix-là, ça doit valoir ça. C'est un hidden gem. Personne ne connaît cet album-là, mais c'est vraiment très, très bon.
Il y a une toune cachée à la fin de l'album également. Je suis pas sûr que c'est disponible sur Spotify, la toune cachée. J'ai pas remarqué. Mais en tout cas, on dirait les lapins crétins qui l'ont fait, là. Ça fait que.
Ouais.
Et on va entendre avant ça un autre groupe qui a quand même, je pense, un impact intéressant parce que plus j'écoute ce groupe-là, plus j'ai des riffs que je reconnais dans ça que j'ai entendu dans du Children et compagnie. Puis c'est Gate of Ishtar. Avec l'album de Dawn of Flame, c'était leur deuxième album qui était paru en 97, la pièce No Time. C'est un autre band qui il a passé complètement inaperçu. Ils ont deux ou trois albums, puis ils ont même déjà un recueil de leurs deux meilleurs albums ensemble. Mais c'est super bon, Gate of Ishtar. Ils ont également un excellent cover, Red Hot, de Judas Priest, si je me trompe pas. Ça fait que non, c'est pas celle-là, c'est Painkiller, Judas Priest. Bref, on va entendre une pièce de Gate of Ishtar qui a rien à voir avec Judas Priest. La pièce No Time au lutin de l'enfer. On vient d'entendre le groupe In Thy Dreams, la pièce Lore Region, tirée de leur deuxième album paru en 2001, IS Beauty. C'est un groupe que Sylvie qui m'avait fait découvrir à l'époque. Il cherchait des groupes de death mélodique. Non, ça n'existe plus, ça. C'est mort et enterré comme groupe. Ils ont fait deux albums aussi, je crois, peut-être trois, là, mais je voyais les deux, puis sûrement une compilation comme troisième. Là. Fait que c'était bien.
Compilation après deux albums.
Non, ben dans le fond, de ce que j'ai lu, le groupe n'existe plus par manque d'intérêt des musiciens à avoir leur propre stuff. Ça fait.
OK.
C'est un peu triste.
Ouais, mais j'ai réécouté l'album justement parce que je voulais avoir des. Au début, je pensais mettre à The Gates, mais genre, c'est trop facile, tu sais, ou tu sais, même si c'est pas tant dans le death mélodique, Ark and Me ou Hypocrisy, mais finalement, j'ai creusé puis je grille. C'est vrai, j'ai cet album-là qui traîne chez nous. Fait que je l'ai réécouté puis c'est vraiment un bon album. La pièce que j'ai fait jouer là, c'est dans le mood là, complet de l'album.
Ouais, c'est ça. Deux albums en deux ans, puis that's it.
C'était ma tournée suédoise cette semaine.
Toujours intéressant la Suède.
Toujours. Vous avez l'occasion d'aller à Stockholm, je vous le conseille. Très, très belle ville.
Oui, définitivement. Une des plus belles villes qui m'ont été données de voir dans ma vie.
Vous dire, il y en a des fois qui pensent que Saint-Hyacinthe, c'est top. Ben, Stockholm, c'est un peu plus haute.
Ça dépend de tes critères.
Ouais, ben c'est ça. Si t'aimes les critères d'une ville entourée de champs, avec des tracts de chemin de fer partout dans la ville, c'est sûr que là, Saint-Hyacinthe.
Surtout la traque de chemin de fer la plus inutile au monde, celle qui traverse l'Avin, là, que il n'y a jamais un train qui a passé là, c'est sûr, sinon c'est une catastrophe.
Ah, ben moi, je me suis fait arrêter récemment.
Ah ouais, ça, je savais que t'étais. C'est, ben, pas juste récemment, mais ça t'est déjà arrivé dans le passé également, je pense, il m'avait dit.
Ouais, oui, ça m'est arrivé une couple de fois.
Prends l'Avin plus souvent que nous.
Fait que oui, ça sert à quelque chose.
Il y a vraiment des trains qui passent là.
Ils n'ont pas pensé mettre un jump à la place au-dessus de la traque, ou la traque qui jump. En grande tête photo, on fait jumper n'importe quoi. Là. Jamais je croyais que dans la vraie vie, on est capable de se débrouiller. Là.
Un gros train de marchandises, ça doit jumper comme rien, ça.
Ouais. Pareil, grande tête photo.
Un bat-réacteur.
Ça, on parlait de jeux. On va parler des jeux de DC parce que DC ont sorti quand même quelques jours. Vous voyez, dans l'ère récente, là, la trilogie des Batman qu'il y a eu. Ben, trilogie. Trilogie puis le spin-off là, qui était le Arkham. C'est quoi déjà?
Arkham, c'est Batman Origins.
Non, Batman Origins, qui n'était pas fait dans le même studio que les autres, pas les mêmes acteurs qui faisaient les voix non plus. Toi, c'est surtout avec ça que tu as découvert l'univers de Batman quasiment.
Oui, puis tu sais, on s'entend, là, les jeux vidéo, Batman, etc., il y en a eu un puis un autre.
Ouais.
Puis pour la grande majorité, habituellement, un jeu de franchise, c'est moins intéressant, mais. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé là, la trilogie de Batman qui a ressorti sur la génération précédente, puis même celui qui a sorti sur la génération actuelle, là, qui s'est fait ramasser au début parce que ça plantait au bout, mais que finalement, j'ai eu quand même eu du fun avec ben, pas mal tous les Batman.
Quand tu l'achètes pas Day One, t'es déjà gagnant habituellement.
Là. Ouais, souvent, tu vas te faire... c'est ça, ça... Tu vas être patché, fait que... Ça va déjà être moins pire, mais ça dépend. Ça dépend. Es-tu capable de te retenir?
Ben oui. C'était lequel ton préféré?
Je dirais Arkham City.
Le deuxième?
Ouais. C'est le premier que j'ai joué, puis j'ai vraiment, vraiment trippé. Peut-être pour ça que c'est mon préféré, là, vu que j'ai découvert la série avec lui, mais non. Moi, je dis, Arkham City.
Moi, j'ai bien aimé, dans le fond, c'est la personne qui s'est occupée de recréer les personnages, là, t'sais, comme Scarecrow. C'est peut-être le plus beau Scarecrow que j'ai vu dans tous les, t'sais, même les BD, les autres films d'animation, un peu. C'est le plus beau Scarecrow que j'ai vu. Il était dans les Arkham de même. T'sais, le pingouin avec son fond de bouteille de pété dans la tête.
Ouais.
Là, t'sais, je trouve que les personnages sont vraiment, ils étaient vraiment sa coche, là, visuellement, là.
Ouais.
Est-ce que c'est cette franchise de jeu-là qui a introduit la mécanique de combat qui a été répétée quand même dans plusieurs autres jeux? Tu sais, l'espèce de mécanique de faire des chaînes de tapochage.
Je ne crois pas. Je me demande si c'est pas les Assassin's Creed. Dans moi, j'ai joué Assassin's Creed 1, c'était le premier. Là. Mais Dee, s'il connaît plus, vas-y, Dee, en jeu vidéo, instruis-nous.
Ben là, à ce point-là, j'ai pas fait de recherche là-dessus, puis je suis pas un fan de Brawler, fait que tu sais. Mais j'imagine que oui, là, un système de combo puis de chaînage comme ça, ça existait avant. Là. Le style qu'ils ont fait eux autres, c'est ça qu'ils ont mis après ça dans les jeux là, du Seigneur des Anneaux.
Shadow of Mordor, puis ouais, Shadow of War.
Ouais, fait que vu que c'est la même compagnie qui les a faites, là, mais de dire qu'eux autres qui ont inventé ça, je pense pas, non.
Ben, c'est sûr probablement qu'ils l'ont perfectionné et peaufiné. Là.
Ouais, leur style est vraiment le fun. Là. Moi qui est pas bon là-dedans, ben je viens à bout de m'en sortir, fait que c'est déjà bon.
Ouais, t'as un petit peu de misère quand même.
Écoute, j'ai pas pété de manette encore.
Il y a eu Spider-Man également dans le même style, qui est un jeu de Marvel, là, mais qui était excellent. Ben, c'était plus un jeu de Sony que de Marvel, mais était super bon Spider-Man. Moi, j'ai vraiment eu du fun à jouer. Là.
Avez-vous joué au dernier?
Non, ben, je sais même pas s'il est sorti sur cette génération de console-là présentement. Là. Probablement.
Parce que ouais, je pense que c'est sa PS4.
Mm. OK. Mais non, j'achète plus vraiment de jeux. Depuis que je suis abonné à PlayStation Nord, je suis une grosse lapette. Ouais, j'achète plus de jeux.
Est-ce qu'on continue en musique?
Ben, bien sûr.
Alors, pour mon deuxième bloc, je suis resté dans le trash, mais cette fois-là, je suis allé dans du trash un peu plus récent. Et un peu plus international, quoique pas tant. Alors d'abord, Angelus Apatrida, qui est un band de trash d'Espagne. Ils sont formés quand même depuis 2000. Ils en sont à leur septième album qui est paru cette année. L'album éponyme, Angelus Apatrida, avec la pièce The Age of Disinformation. En général, j'aimais mieux leur album précédent, mais il y a quand même quelques bonnes tracks sur celui-là. Et ça, ils ont été formés en 2000, donc tout de suite après les années noires du trash des années 90. J'écoutais aussi récemment la discographie de Creator, puis je sais pas si les années 90, ça a été terrible pour le trash metal.
C'est à cause des Hanson.
Certains diront c'est à cause de Kurt Cobain, mais en tout cas, chacun son bouc émissaire.
J'aime mieux venger ses Hanson que sur Kurt Cobain.
Ouais, c'est vrai. Ils sont plus sans défense. Après ça, on va écouter un band qui s'appelle Heathen. Un band curieux parce qu'ils ont, ils sont là depuis un bon bout. En fait, depuis 1986, leur premier démo. Mais ils ont été inactifs pendant la période pendant les années noires du trash de 91 à 2010 environ. Ils sont inactifs. Mais ils sont revenus en force en 2010 avec un super bon album, Evolution of Chaos. Ils ont sorti un album l'année passée qui est un peu moins bon, quant à moi. Quand même une bonne pièce qu'on va écouter, The Blight. Un peu moins bon que l'autre, mais bon, ça se toffe quand même. C'est un band du Bay Area aussi, donc c'est pour ça que je disais pas tant international. mais un peu plus moderne. Alors, on écoute Heathen au lutin de l'enfer. Et on vient d'entendre un groupe qui s'appelle Paranorm, un groupe que je suis tombé un peu par hasard en fouillant ce qui sort de nouveau. Ils ont sorti un album qui s'appelle Empyrean, en tout cas, ça. C'est leur album début, c'est leur tout premier album. Puis c'est ça, c'est un band de Suède avec qui ont fait la pièce The Immortal Generation. C'est trash, mais en même temps, ils ont des éléments death prog fort intéressants. L'album est quand même très bon overall.
Ben moi, j'ai bien aimé la toune. Ça faisait différent aussi. Là. Justement, ouais. Je trouvais qu'il y avait des touches particulières dedans. Là.
C'est ça. Ils ont tout l'album est comme ça. Ils ont des sonorités un peu plus que trash. Alors, je trouvais ça intéressant de mixer un peu vers la fin. Très bon band. Je vous invite à écouter cet album-là. Espérons qu'ils vont rester ensemble, contrairement à
plein d'autres groupes.
In Thy Dreams.
Qui? In Thy Dreams.
In
ouais.
Thy Dreams qu'on parlait plus tôt.
S'ils perdent pas intérêt dans leur propre stuff, ça devrait être correct.
C'est un bon début.
Et moi, je vous conseille d'écouter Feu à volonté.
C'est le moment de la chronique les films bidons.
Un super vraiment. De bon film.
Là, je dois avouer, Lutinka, par contre, oui, c'est un film, on comprend un peu bidon, mais comparé à l'autre qu'on avait parlé avant, Les Flingueurs, celui-là est vraiment une coche au-dessus. Là.
Bon, ouais, ben, premièrement, il y a Clive Owen dedans, il y a Paul Giamatti et Monica Bellucci. Déjà, c'est des noms plus crédibles que Ice-T.
Christophe Lambert.
Ben, ça dépend pour l'époque, là.
Ouais, Ice-T, cinéma, je pense que c'est vraiment crédible un jour, là. Mais... Non, moi, ce film-là, résumé vite, comment c'est arrivé. C'est qu'il y a un de mes chums de gars, Yann, qui me disait « Ah, il y a un film, c'est écœurant, ça gonne, surtout au début, la scène d'accouchement. » Puis il y en a, j'ai réussi à mettre la main dessus. Puis c'est vraiment ça. Dans le fond, l'histoire, c'est que Clive, c'est un hobo. Il s'appelle Monsieur Smith, c'est un SDF qui mange des carottes, qui trempe dans son café. Puis il voit une fille qui s'en va accoucher en se faisant poursuivre par des dudes armés. Puis finalement, lui, il gonne, il tue tout le monde. C'est-à-dire, pendant l'accouchement, d'avoir une cinquantaine de jobbers qui rentrent, il les abat toutes, il tire sur le cordon ombilical pour couper ça, il plug le bébé ses boules d'affaires, go, ça, on continue de gonner. Puis ben, finit par mourir, hein, la mère du petit bébé, c'est avec lui, il en prend possession. C'est un bon gars, même si c'est un SDF qui tue tout le monde, il a un bon fond. Fait qu'il prend le bébé sur son aile, puis il essaie de s'en débarrasser, finalement. Là, il nous a eu. Il essaie de le domper un peu partout. Puis on pense qu'il réussit à l'abandonner. Il dompe sur un carrousel d'un parc. Puis là, il y a une madame qui dit « Oh, mais il y a un bébé tout seul! » Mais là, la bonne femme se fait gonner parce que Paul Giamatti, lui, il veut gonner le bébé, tu sais. Ça fait que, finalement, Owen, Clive, il tire du gun sur le carrousel, faire tourner le carrousel pour récupérer le bébé. Puis il réussit à fuir, puis il s'en va d'une salle de bain, puis là, il y a des ordres d'agents du FBI qui courent après, puis là, ça se bat dans la salle de bain, puis là, il se demande quoi faire, il est écœuré dessus du monde, puis d'avoir un bébé dans les bras. Fait qu'il se rappelle qu'il y a une chumette, Monica Bellucci, dans le fond, elle fait une pute là-dedans que c'est pour les vieux cochons qui aiment se faire allaiter. On va dire ça de même, là. Ça fait qu'il dit enfin chouge que le bébé va se nourrir. Ça fait qu'il s'en va plugger le bébé chez Monica. Puis là, il y a Paul Giamatti qui s'emmerde et tout, que c'est un vrai, vrai, vrai méchant. Il tire du gun juste pour coller dans l'entrejambe de Monica puis montrer que c'est chaud. Puis il y a un paquet d'affaires pas possibles. Dans... Oui?
C'est une forme de torture, là. C'est pour brûler. Là,
ben oui. Mais tu sais, c'est toutes des affaires pas possibles tout le long dans le film. Je sais que toi, Olivier, il y a une scène en particulier qui t'a, qui t'a accroché.
Laquelle dont il y en a tant?
Ben, celle qui faisait du bon sexe.
Oh my god, ouais, c'est ça. Ben, évidemment, Clive, Monsieur Smith et Monica, elle a-tu un nom dans le film?
Ben, elle s'appelle La Pute.
Bon, ben, Monsieur Smith et cette charmante prostituée, évidemment, finissent par développer une relation à force de protéger ce bébé. Ils consomment cette relation, mais pendant la consommation, il arrive des gens qui veulent... et voilà. Il y arrive des jobbers qui veulent s'en prendre à eux, mais Monsieur Smith n'interrompra pas la chose pour à cause de minables jobbers. Fait qu'il continue tout en abattant les jobbers. pour le plus grand bonheur de Monica, faut le dire.
Tu sais, en plus, il fait pas juste tuer avec du gun, hein, il en tue tout deux, trois avec des carottes là, dans le film. Là, parce qu'il y a toujours des carottes sur lui. Mais ça l'aide, hein, mais il cherche des indices. Dans le fond, il est en haut d'un bord d'une usine à bébélouche, en haut d'un bord de Gauthier, où il y a Marilyn Manson qui sort de Doorman. Puis il cherche des indices, il croque des carottes, puis il zoome aux bonnes places. Ça fait que. Mais finalement, tu sais, c'est un genre de complot, là, tout ça, là, gouvernemental, là, pour de la cellule souche, pour un sénateur qui est en fin de vie. Puis ça, il apprend ça quand il est dans Air Force One. Puis il y a une fusillade, pas dans l'avion, mais quand il saute en parachute, il va y avoir une centaine de jobbers qui sautent en parachute aussi. Puis t'as une de ces fusillades dans le ciel. Finalement, il pleut vraiment des cadavres parce que quand il atterrit, lui, M. Smith, à la fin, là, proche de son petit chez lui, mais il y a des corps partout à grandeur.
Ouais, faut dire que ça défie beaucoup de lois de la physique. Je sais pas si Neil deGrasse Tyson a déjà parlé de ce film-là, mais il y en aurait long à dire.
Probablement, il y avait tout une shot que M. Smith, il a les doigts tout pétés, puis il réussit à se mettre des douilles de fusil entre tous les doigts, puis il se met la main dans le feu pour... tirer, puis ça tue.
C'est le plan machiavélique de Paul Giamatti qui lui brise les doigts pour lui faire avouer où est le bébé. Puis, fait que là, évidemment, M. Smith réussit à s'en sauver, mais là, il est plus capable de tirer drette parce qu'il n'y a plus de doigts. T'sais.
Ils sont tout croches. Il y a des doigts de sorcière.
Paul Giamatti pense s'en être bien sorti, mais non. M. Smith réussit à mettre les balles entre ses mains, proche d'un foyer. Bang! C'est la fin.
Finalement, c'est... puis à la fin, il retrouve sa pute puis le bébé dans un soda shop dans le milieu de l'Arkansas. Là, puis il tue trois rednecks qui s'en venaient faire un braquage. Ça finit bien. Les rednecks qui couraient après, il y en a qui avaient une boucle d'oreille moche, un qui avait des ongles d'orteillette, puis l'autre, je me rappelle plus pourquoi, qui se fait gonner, mais il y avait des raisons aussi.
Il ben, y a tout le temps un sens de la justice quand même. Il y a des choses qui l'écœurent, t'sais, comme des gens qui sont pas polis, ils aiment pas ça. Pis...
le gars qui dépassait sans mettre son flasher en char, il est allé te le ramasser, tu sais, pour. Mets-le ton flasher! Mais oui, ça, il aime la justice. Il y avait un gars d'une BMW qui jette une cochonnerie à terre. Non, il est plaqué d'une place qu'il n'a pas le droit. Ben, c'est le char qui va voler. Tu sais, c'est que. Comme j'ai dit, il y a un grand cœur là-dedans, M. Smith. Feu à volonté. Shoot them up en anglais, ceux que ça l'intéresse. Beaucoup, beaucoup d'action. Puis même le méchant, là, Paul Giamatti, il dit quand que M. Smith il tue tous ses jobbers, il dit coudonc, c'est-tu parce qu'on est poche ou c'est parce qu'il est vraiment hot, là? Il en sont conscients, là.
J'aimerais savoir lui contre John Wick.
Oh.
Bah, John Wick devrait gagner quand même, je pense. Quoique lui, il a les carottes de son bord.
Ouais. Mais c'est ça, c'est un film loufoque, mais quand même agréable. T'sais, borderline comédie, là. Mais comédie agréable, tu sais.
Ouais. Bon, ouais, c'est un assaut de plein fouet à la gâchette facile. C'est ce qui est écrit sur sa pochette.
Mettez votre cerveau à off puis écoutez ça.
Mais
disponible
là,
sur Netflix en plus.
Ah ouais, bah, je savais même pas. Moi, je l'ai disponible en DVD. Je l'ai deux fois en DVD même. T'sais, je l'ai tellement aimé que je l'ai ramassé deux fois. Donc, là, remettez votre cerveau à on. On va finir ça en musique avec le dernier bloc du Lutin 2.
Ouais, ben, c'est un bloc de je suis trébuché puis je suis tombé dessus. Fait que okay. Je cherchais des trucs puis je suis tombé sur The Red Car avec ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cet album là fait que je me suis dit pourquoi pas mettre la toune Dread Prevailed. Puis avant ça là ça je suis moins un petit peu moins trébuché dessus, j'avais ça qui traînait dans mes listes d'albums à écouter, je sais pas qui m'a conseillé ça. Mais Asphyx, la pièce Buttocks Implosion tirée de Necroceros sortie en 2021. L'album, moi j'ai trouvé ça quand même tellement bon. C'est vraiment bon. C'est un vieux band de death crasse qui existe depuis longtemps. Puis moi j'ai bien aimé l'album. Si vous aimez ça, des voix de gars qui fume 3 paquets de cigarettes par jour puis qui boit 2 40 onces de Jack par jour, ben c'est pas vous.
Il y avait cette voix-là au début de leur carrière, en plus.
Ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est du gros travail acharné.
Puis ils ont formé le band au secondaire.
On va écouter ça et beaucoup plus au lutin de l'enfer. On vient d'entendre le band Allégaion. Allégaion, tiens. Je suis trébuché là-dedans dans mes vidéoclips. J'ai aimé cette pièce-là, la pièce 1.618. Mais j'ai pas écouté l'album, fait que je peux pas vous en parler plus que ça. Mais bon, j'avais aimé la pièce, alors je vous en fais part. Quand je trébucherai sur d'autres choses, je vais vous en faire part aussi.
C'est bon. Fait que là, peut-être que nos auditeurs sont confus habituellement. Il n'y a pas de bloc numéro 7. Mais voilà, c'est une nouveauté des lutins. Après seulement 5 épisodes, on innove déjà. On va faire une nouveauté de la semaine.
Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine.
Alors, pour cet épisode, on enregistre ça à la fin d'avril. Et l'épisode, c'est la pièce qu'on a choisie, c'est Nichts de Caliban. Un nouveau single qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. L'album sort le 14 mai. Et dans le fond, c'est ça. L'album qu'ils font Caliban, c'est qu'ils reprennent plusieurs chansons qu'ils ont enregistrées dans le passé en anglais, mais ils les font cette fois en allemand. Alors, album potentiellement intéressant, même si Lutinka, le single, ne t'a pas convaincu.
Non, j'ai trouvé le single très moyen. C'est que. M'attendre parce que c'est comme le dernier de Caliban qui avait sorti avant. J'avais trouvé que le premier single était moyen outil. Finalement, c'est quand même un de mes albums préférés. C'est que. Pour ça, je partirais pas tout de suite en peur, là. Mais. Parlant de partir en peur, les Canadiens ont gagné à soir de 1 la Coupe!
Oh, on distancie un peu les Flames pour la quatrième place.
Mais bref, oui, Caliban, le 14 mai, j'ai bien hâte d'entendre ça comme album.
À suivre. Donc, sur ce, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est partout, on poste des affaires, puis dont des podcasts. Donc, suivez-nous sur Spotify, Facebook. Puis, si vous n'aimez pas ça, ben suivez-nous quand même, parce que nous, quand on n'aime pas ça, on ne se gêne pas pour le dire. Alors, participez à la discussion.
C'est bien.
Alors, sur ce, les lutins, cheers!
That's cool.
Bye.